l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 26 juin, bonsoir à tous, installez-vous, mettez-vous dans les chaussons de l'actu. C'est parti pour 3 heures d'infos. Dans le débat du jour, nous parlerons des personnes LGBTI+. Leurs droits sont-ils en recul? C'est la question qu'on posera. En plein mois des fiertés dans le monde, à quelques jours de la Grande Marche à Paris, des droits qui progressent dans certains pays qui régressent ailleurs et des actes homophobes qui se multiplient. Rendez-vous donc dans 30 minutes. 18h10 TU, le décryptage d'Anne Corpé au Royaume-Uni ce soir, où les conservateurs qui sont au pouvoir depuis 14 ans pourraient subir une défaite cinglante à l'occasion des prochaines législatives du 4 juillet. Les travaillistes sont annoncés triomphants. Comment expliquer cela? 18h30 TU Afrique Soir, on fera le point sur la situation ce soir au Kenya. Et puis 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe en Roumanie pour parler restauration de la nature. Et puis le grand reportage dans le nord-est de la Syrie, la vie sous les feux de l'armée turque. Voilà, vous savez tout ou presque, c'est le grand journal du soir pour commencer. Bonsoir Stéphane Jeunesse.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, William Ruto qui annonce le retrait du projet de budget au Kenya.
Le président kényan l'a précisé dans une allocution télévisée tout à l'heure, texte à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a fait au moins 23 morts hier. J-4 avant le premier tour des élections législatives en France, les candidats à la députation mènent campagne dans leur circonscription, mais en haut lieu, à la tête des partis, on s'interroge sur le choix à faire lors du second tour. C'est le dossier de votre journal. Au sommaire également, Julian Assange de retour en Australie, l'ouverture du procès en Argentine de la tentative d'assassinat de l'ex-vice-présidente Cristina Kirchner et les émissions de gaz à effet de serre en baisse en France au premier trimestre 2024.
Et puis dans un quart d'heure, à la fin de votre journal, Stéphane, toute l'actualité sportive, évidemment, dernière journée des phases de groupe de l'Euro, actuellement la Slovaquie affronte la Roumanie, l'Ukraine se frotte à la Belgique. Et donc à la une ce soir, Stéphane Jeunesse, le gouvernement kényan qui rétropédale au lendemain de manifestations, au moins 23 personnes ont été tuées lors de la répression des forces de l'ordre.
Le président William Ruto l'a annoncé en personne cet après-midi. La loi de finances 2024 qui avait provoqué cette colère de la population a finalement été retirée. Votée hier par les parlementaires, elle devait être encore signée par le chef de l'État depuis plus de 10 jours. Cette loi qui prévoit de nouvelles taxes fait l'objet d'une forte contestation, comme celle d'hier. L'ONU qui demande à l'instant que les responsabilités soient clairement établies après ces violences. On vous retrouve à Nairobi, Gaëlle Lalex, correspondante de RFI dans la capitale kényane. Et Gaëlle, William Ruto a donc cédé à la pression de la rue.
Oui, et il l'a d'ailleurs dit lui-même, hein, je dirige un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple. Et le peuple a parlé, le président ne signera donc pas la loi pour compenser le manque à gagner, car cette loi de finances devait apporter 345 milliards de shillings en plus dans les caisses de l'État que l'année précédente. William Ruto propose des mesures d'austérité et il sera le premier à se serrer la ceinture, promet-il, puisque la présidence montrera l'exemple. Les frais de travail, de transport, d'hébergement, de rénovation notamment, seront revus à la baisse. C'était aussi une revendication des manifestants qui refusaient de payer plus d'impôts pour financer des élites politiques qu'ils jugent corrompues. Enfin, William Ruto a invité la jeunesse à la discussion plus largement. Il promet d'organiser un dialogue avec les forces vives de la nation, sociétés civiles, religieux ou encore syndicats. L'initiative est accueillie avec une certaine circonspection sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Il n'oublie pas que la veille, le président les qualifiait de criminels, justifiant ainsi une répression policière meurtrière.
Gaëlle Lalex en direct de Nairobi pour RFI.
Autre grand titre de l'actualité, évidemment, les élections législatives en France. Nous sommes à 4 jours maintenant du premier tour.
Et d'ores et déjà, les Français de l'étranger ont commencé à voter. Ils ont jusqu'à demain, jeudi midi. Vote qui se déroule en ligne, mais le site a vite été pris d'assaut, ce qui a entraîné des problèmes d'accès aux services. Mais le premier tour n'est pas encore passé, ni joué, que les partis préparent déjà le second. C'est le dossier du journal. Avec vous Valérie Gaz. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Stéphane.
Chef du service politique de RFI. Alors le second tour agite le parti présidentiel avec ses interrogations. Quelles consignes de vote faudra-t-il donner aux électeurs et dans quelles conditions les candidats du camp présidentiel devront-ils envisager de se désister pour l'un ou pour l'autre de leurs adversaires? En fait, ce que l'on peut dire, Valérie, c'est que c'est un véritable casse-tête.
Oui, c'est la question à laquelle tout le monde essaie d'éviter de répondre pour le moment dans le camp d'Emmanuel Macron. Avant le premier tour, la ligne, c'est de ne pas trancher. Parler déjà de consignes de vote pour le le second tour. C'est se mettre bien trop tôt dans une posture de défaite. Un candidat parisien balaie cette question. Moi, je suis vraiment en campagne. On est là pour gagner.
Alors, repousser à plus tard, c'est aussi, Valérie, un moyen d'éviter une question qui fâche.
Oui, parce qu'il y a des divisions internes. Le ni-ni, ni extrême droite, ni extrême gauche, dans la ligne de la campagne du premier tour, théorisée autour de trois blocs qui consistent à renvoyer dos à dos l'alliance RN Ciotti et le nouveau Front Populaire radicalisé par LFI, ne fait pas l'unanimité. Déjà, des voix se font entendre pour rejeter ce non-choix. Un ancien ministre, candidat pour retrouver son mandat de député, veut rester cohérent avec ses convictions. Entre le RN et LFI, je choisis LFI parce que le danger concret, c'est le RN qui risque d'avoir une majorité à l'Assemblée. Pour lui, ça doit aller jusqu'au désistement en faveur du candidat de gauche en cas de triangulaire au second tour.
Mais pour d'autres, ça n'est pas si évident que ça.
Oui, comme pour ce député qui estime qu'il s'agit de choisir entre la peste et le choléra. Il n'envisage pas une consigne de vote générale et encore moins des désistements systématiques. Il faudra regarder au cas par cas quand les résultats du premier tour seront tombés. Les circonscriptions où la question sera vraiment épineuse, ce seront celles où il y aura des duels RN-LFI. Appelés à voter pour un socialiste ou un écologiste contre le RN ne devrait pas poser de problème. En revanche, soutenir un candidat de Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre affaire. Un barrage républicain, mais à la carte en quelque sorte.
Alors ce que l'on peut comprendre, Valérie, c'est que les chefs de la majorité vont donc avoir un choix difficile à faire.
Oui, choisir le ni-ni comme en 2022, ce qui de l'avis d'un député sortant avait déjà à l'époque, je le cite, mis le bordel après le premier tour, paraît donc difficile. Le cas par cas se profile, mais il sera plus dur à justifier car la situation politique a évolué. Le RN est désormais véritablement aux portes du pouvoir. L'écologiste Marine Tondelier a compris qu'il fallait mettre la pression sur la majorité en demandant à rencontrer les chefs de Renaissance et de ses alliés pour qu'ils clarifient leur position sur le front républicain. Mais il est peu probable qu'ils le fassent avant dimanche soir.
Le dossier du journal avec Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Et sur ce sujet, nous recueillerons l'analyse d'Yves Tréhard du Figaro. Ce sera dans environ 15 minutes. En France, toujours Stéphane Genest, la justice valide le mandat d'arrêt visant Bachar al-Assad.
La cour d'appel de Paris vient de valider ce mandat d'arrêt français visant le président syrien. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières en août 2013 imputées au régime. Décision qui ouvre donc la voie à un procès en France contre Bachar al-Assad dans ce dossier, qu'il soit arrêté grâce à ce mandat ou pas d'ailleurs. Sur place, les parties civiles saluent une décision historique. Mazen Darwish en fait partie. Il est le président de l'ONG syrienne SCM.
Pour être honnête, j'avais de l'espoir, mais pas un espoir immense. Cela relève du miracle pour moi. J'ai même plusieurs fois demandé à mes avocates, c'est bien vrai, c'est bien la décision de la Cour ? Même si pour nous, cette décision est logique, éthique et fondée légalement, on savait bien que ce n'était pas la première fois que cette question d'immunité était posée et qu'elle suscite de vifs débats depuis des années. Donc, obtenir cette décision, c'est une immense victoire pour toutes les victimes, pas seulement les victimes syriennes. C'est un message envoyé à tous les dictateurs, pas uniquement à Bachar al-Assad, mais à tous les criminels de guerre, partout dans le monde. Ils savent ce que cela veut dire, que c'est un nouveau chapitre de l'histoire qui s'ouvre. Ce n'est pas une fin, mais un début, y compris contre Bachar al-Assad, le combat continue. We will keep fighting.
Mazen Darwish, président de l'ONG syrienne SCM au micro RFI de Laura Martel. Et toujours au chapitre judiciaire, la première audience d'Evan Gershkovitch s'est tenue ce mercredi en Russie. Procès à huis clos pour ce journaliste américain détenu depuis 15 mois en Russie pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. Washington dénonce un simulacre de procès.
Alors lui, ça y est, il est tiré d'affaire. La justice américaine a étudié son cas. Il est libre. Il s'agit de Julian Assange.
Il a atterri dans son Australie natale tout à l'heure à l'issue d'un accord avec la justice américaine qui a mis fin à une saga judiciaire de près de 14 ans. Un retour en Australie donc de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, salué par le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui reconnaît que son pays a joué un rôle dans la libération du lanceur d'alerte.
Au cours des deux dernières années, depuis notre entrée en fonction, mon gouvernement s'est engagé et a plaidé, y compris au niveau des dirigeants, pour résoudre ce problème. Nous avons utilisé tous les canaux appropriés et ce résultat est le fruit d'un travail minutieux, patient et déterminé dont je suis très fier. Ce travail a été complexe et réfléchi. C'est à cela que ressemble la défense des Australiens partout où ils se trouvent. Cela signifie qu'il faut faire le travail, obtenir des résultats et avoir la détermination de maintenir le cap Et je suis très heureux qu'à cette occasion, nous ayons obtenu un résultat positif que, je pense, la grande majorité des Australiens souhaitaient voir se concrétiser. Et comme je l'ai dit, les opinions sur l'engagement et les activités de M. Assange peuvent diverger. Mais les Australiens seront heureux que cette saga ait pris fin et qu'il puisse retrouver sa famille.
Voilà, Anthony Albanese, le Premier ministre australien. Vous écoutez RFI 17h10, temps universel. Vous écoutez le grand journal du soir de Stéphane Genest. La suite à présent avec ce nouveau visage à la tête de l'OTAN.
Celui de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, nommé chef de l'Alliance transatlantique. Il succède ainsi à Jens Stoltenberg. Nomination saluée par le président ukrainien, le président américain. En revanche, colère noire de Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui s'insurge contre les nominations à la tête des institutions de l'Union européenne. Issue de l'extrême droite, elle dénonce le fait que son parti, hein, d'extrême droite au Parlement européen, les conservateurs et réformistes européens, n'aient pas été sollicités dans ces nominations. Giorgia Meloni, qui s'en est plaint aux parlementaires de son parti, Anne Lenir.
Son visage sévère, son ton moralisateur, en ont dit autant que les paroles qu'elle a prononcées devant les députés et les sénateurs sur la position de son gouvernement. Rappelant que son groupe des conservateurs est la troisième force au Parlement européen, avec 83 députés, Giorgia Meloni a durement attaqué les familles populaires, socialistes et libérales.
La logique du consensus est bafouée par la logique d'une oligarchie de certains partis qui prétendent pouvoir prendre des décisions à la place de forces politiques adverses et de nations jugées trop petites pour mériter de s'asseoir aux tables de négociations qui comptent. L'erreur qui est en train d'être commise avec cette décision imposée par une majorité fragile est gravissime. Je souhaite que notre pays soit représenté au mieux dans les postes clés de l'Union européenne.
Giorgia Meloni a laissé entendre qu'elle pourrait s'abstenir de participer à la décision finale sur les postes clés de la Commission européenne, mais ce n'est peut-être qu'une menace pour que l'Italie obtienne au moins un portefeuille prestigieux. Anne Lenir, Rome, RFI.
Allez, direction à présent l'Argentine, où ce mercredi s'est ouvert le procès contre trois personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner Cristina Kirchner.
Le procès a commencé ce matin. C'était en septembre 2022. Un homme qui tente de tuer en pointant un pistolet sur l'ex-vice-présidente argentine. Sa compagne de l'époque et son patron sont aussi sur le banc des accusés. Tous les trois sont arrivés tout à l'heure dans un tribunal de Buenos Aires, Noémie Loweller.
Devant les caméras, Fernando Sabag Montiel brandit une feuille de papier sur laquelle on peut lire « Il me séquestre ». Derrière lui, à distance, ses deux co-accusés, son ex-compagne Brenda Uliarte et son ex-patron Nicolas Carrizo, qui auraient pu coordonner l'attaque. Le 1er septembre 2022, Fernando Sabag Montiel attend Cristina Kirchner devant son domicile, aux côtés de quelques sympathisants. Lorsqu'elle arrive, il s'approche et tente de tirer sur elle, mais le coup ne part pas, l'homme est rapidement contrôlé. Les messages échangés par téléphone entre les co-accusés, une série d'insultes lues ce matin dans la salle du tribunal de Buenos Aires, démontrent une véritable haine contre Cristina Kirchner. Ils parlent aussi des détails de l'attaque. Ils comparaissent donc pour tentative de meurtre aggravée par l'usage d'une arme à feu et préméditation. Mais ont-ils agi seuls ? C'est ce que croit a priori le procureur qui a écarté la piste d'un lien avec de potentiels opposants politiques, comme n'a cessé de le clamer l'ex-présidente péroniste d'alors. Près de 300 témoins vont défiler à la barre. Le procès devrait durer environ 6 mois.
Retour en France où plusieurs groupuscules d'extra-droite, dont le GUD actif à Paris et les Remparts basés à Lyon, ont été dissous ce mercredi en Conseil des ministres à quelques jours du premier tour des élections législatives. Une association islamiste, Younas Pari, a également été dissoute.
En France également, où le ministre de la Transition écologique se félicite de cette nouvelle, la baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre de cette année.
Une nette baisse de 5,3% par rapport à la même période de l'an dernier. Une bonne nouvelle donc, mais qui demande finalement à être confirmée dans la durée, Simon Rosé.
En 2023, les émissions françaises de gaz à effet de serre avaient diminué de près de 6%. Pour les trois premiers mois de 2024, la tendance se confirme, moins 5,3% selon les premiers chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique. Tous les secteurs sont concernés. La production énergétique a ainsi vu ses rejets de CO2 diminuer de 17% par rapport à la même période l'an dernier. Cela s'explique notamment par une plus grande disponibilité du parc nucléaire qu'en 2023. Autre secteur où les émissions sont également en forte baisse, le bâtiment, la raison est cette fois conjoncturelle. Les températures douces ont réduit les besoins de chauffage. Enfin, les transports, pourtant généralement plus durs à décarboner, suivent la tendance, moins 3%, en raison, selon le ministère, d'une diminution des émissions des véhicules diesel. Cette dynamique permet à la France d'être dans les temps de passage de la trajectoire qu'elle s'est fixée, moins 55% des émissions de CO2 d'ici 2030. Reste cependant une énorme inconnue, la composition de la future majorité à l'Assemblée nationale, puisque de l'avis de tous les experts, une victoire du Rassemblement national compromettrait la réussite de cet objectif.
Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI. Justement, ces thèmes pourraient bouleverser les JO de Paris. La cérémonie d'ouverture est dans un mois jour pour jour, avec cette grande interrogation. Est-ce que les épreuves de natation en eau libre vont bien pouvoir se dérouler dans la Seine? Pour le moment, c'est très très compliqué. La Seine qui est trop polluée, mais quoi qu'il en soit, les organisateurs l'assurent. À partir du 26 juillet prochain, Paris sera une fête à l'occasion de ces Jeux.
Alors Stéphane Jeunesse, là je lance le débat. Est-ce que vous vous baigneriez dans la Seine?
Certainement pas.
Merci beaucoup. C'était Grand Journal du soir sur RFI. Et on va continuer à évoquer l'actualité politique en France. Évidemment, c'est un des grands titres encore ce soir. Dans quelques minutes, l'analyse du Figaro. Quelle sera la position du camp présidentiel en cas de duel entre l'extrême droite et la gauche au second tour des législatives? Pour le moment, la position n'est pas tranchée. Nous irons ensuite à Amsterdam, la ville hollandaise, connue pour la fête, connue également pour la drogue. Tout cela contribue à l'afflux de touristes. Mais l'heure est à la lutte contre le sur-tourisme. Et une décision de la mairie dans ce sens-là, eh bien, ne plaît pas du tout aux professionnels du secteur, vous le verrez. Mais pour le moment, place à toute l'actualité sportive. Et c'est avec Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
À la une, le football évidemment, l'Euro qui se déroule en Allemagne, le dénouement actuellement dans le groupe E.
Un groupe totalement indécis, puisqu'avant cette troisième et dernière journée de la phase de poule, les quatre équipes étaient ex aequo avec trois points, à savoir la Belgique et l'Ukraine, actuellement opposées à Stuttgart, et la Slovaquie et la Roumanie qui s'affrontent dans le même temps à Francfort. Les vainqueurs de ces deux matchs seront qualifiés pour les huitièmes de finale, s'il y en a, car en cas de match nul, il faudra alors sortir les calculettes et on y va tout droit, puisque après une heure de jeu, il y a 0-0 entre la Belgique et l'Ukraine et un partout entre la Slovaquie et la Roumanie. À noter que le deuxième de ce groupe E sera l'adversaire de l'équipe de France lundi en huitième de finale.
Et ce soir, c'est le groupe F qui va livrer son verdict.
On connaîtra alors le tableau complet de ces huitièmes de finale. Si le Portugal est assuré de finir la première place de ce groupe F, les autres équipes sont à la lutte pour la qualification. Ballotage favorable pour la Turquie, actuellement deuxième avec trois points. Un nul lui suffit face à la République tchèque ce soir à Hambourg pour passer. Les Tchèques, qui ne comptent qu'un seul point, doivent quant à eux s'imposer. Même défi pour la Géorgie, obligé de faire tomber le Portugal pour voir sa première aventure dans un tournoi international se poursuivre. Les Portugais donc déjà qualifiés, mais qui ne devraient pas trop faire tourner ce soir à Gelsenkirchen. L'inoxydable Cristiano Ronaldo, 39 ans, sera ainsi bien présent au coup d'envoi, comme l'a précisé le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez.
Je peux vous assurer que mon capitaine sera dans le 11 de départ. Il n'a joué qu'un seul match de préparation, mais il a eu une saison très consistante cette année. Il a joué tous les matchs et il a passé beaucoup de temps sur le terrain. Ça, nous en avons besoin. C'est important qu'il garde un haut niveau, qu'il reste compétitif. Ce n'est pas bon pour un sportif de démarrer puis de s'arrêter. Donc je peux vous l'assurer, mon capitaine sera bien sûr titulaire au coup d'envoi.
Portugal, Géorgie et République tchèque, Turquie, coup d'envoi simultané à 19h temps universel.
Le basket américain fait son marché ce soir à New York, Eric, à l'occasion de la fameuse draft NBA.
Les 30 franchises nord-américaines vont chacune choisir un espoir parmi la cinquantaine de candidats qui aspirent à intégrer la prestigieuse NBA. Plusieurs Français en font partie et pourraient bien imiter Victor Wembanyama, qui était devenu l'an passé le premier tricolore drafté en première position. Cette année encore, en effet, la French Touch à la côte outre-Atlantique, comme ne l'explique Victor Missistrano.
Difficile de passer après un Victor Wembanyama au centre de toutes les folies il y a un an. La QV 2024 s'annonce pourtant exceptionnelle, comme nous l'explique Sami Sadik, spécialiste basket au journal L'Équipe.
Normalement, on verra un des Français être appelé numéro 1, voire peut-être un et deux, ce qui serait historique pour un autre pays que les États-Unis.
Zachary Rizaché et Alexandre Sarr sont attendus tout en haut. Les dernières prédictions placent aussi Tidjane Salin dans le top 10. Alors comment expliquer une telle convoitise autour des joueurs français?
Les équipes NBA sont sont sensibles au fait que les jeunes Français qui se présentent à la draft ont joué dans un environnement professionnel quand ils viennent par exemple du championnat de France. Ils sont sensibles aussi à la réussite un peu de la formation française. On a une génération qui est un petit peu exceptionnelle. L'été dernier par exemple, toutes les équipes de jeunes masculines et féminines sont arrivées dans le dernier carré de leurs compétitions respectives.
Être drafté tout en haut, c'est toucher le gros lot, un salaire de 10 millions de dollars pour la seule première année de contrat.
Sélectionner un joueur avec le choix numéro 1, le choix numéro 2, c'est un gros investissement pour une franchise NBA, c'est une marque de confiance. Donc le joueur qui est sélectionné à ce rang-là va nécessairement avoir la chance de briller en NBA. On va lui donner sa chance.
Mais tout cela n'est pas une fin en soi. Il y a 10 ans, le Serbe Nikola Jokic était drafté en 41e position. Il est désormais considéré comme le meilleur joueur du monde.
Et début de cette draft NBA à New York à minuit, temps universel. Pendant ce temps-là, le sélectionneur de l'équipe de France commence à écrémer son groupe qui disputera le tournoi olympique dans un mois. Vincent Collet avait préconvoqué 19 joueurs le mois dernier pour entamer la préparation. Ils ne sont plus que 17, puisque le milieu Killian Hayes et l'ailier Ousmane Dieng viennent d'être remerciés. À l'arrivée, on le rappelle, seuls 12 joueurs porteront le maillot bleu pendant les Jeux de Paris 2024.
Et ce sera à partir du 26 juillet prochain, on le rappelle. Merci beaucoup Eric Mamrut pour l'actualité sportive de ce mercredi 19h20 ici à Paris. On revient à présent à la politique française. Nous sommes désormais à 4 jours du premier tour des élections législatives et les interrogations sont nombreuses évidemment dans ce cadre-là. On va s'intéresser à présent au camp présidentiel. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Depuis la rédaction du Figaro, évidemment vous consacrez un dossier au scrutin qui s'ouvre dimanche. Mais Yves Tréhard, ce qui agite la Macronie, c'est déjà la question du second tour.
Et oui, parce que comme chacun le sait maintenant, et c'est pas un secret, toutes les études d'opinion le disent, les trois blocs entre la gauche, l'extrême droite et le centre, ben c'est le centre qui est le moins bien placé, qui figure en troisième position. Et pour beaucoup de candidats qui arriveraient à se hisser au deuxième tour, se posera la question de savoir s'ils doivent se retirer pour faire barrage ou pas au Rassemblement national ou à la gauche du Front populaire. Et puis pour ceux qui n'accéderaient pas au deuxième tour non plus, savoir si ils donnent une consigne de vote. Alors le camp présidentiel est divisé. Il y en a qui, comme Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre déléguée à l'agriculture, ou Clément Beaune, qui était le ministre des Transports, et bien eux disent il faut voter, il faut faire barrage au Rassemblement National, et puis il faut voter pour le Front populaire. Et ils signent d'ailleurs en ce sens une pétition avec Raphaël Glucksmann ces dernières heures. Il y a un autre angle d'attaque, c'est celui du président de la République d'ailleurs, et de pas mal de caciques de cette majorité, comme le Premier ministre, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Adèle Bonnepivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui se sont réunis hier à l'Élysée, et eux qui disent on verra dimanche, on verra en fonction des résultats, mais c'est plutôt du ni-ni, c'est-à-dire ni d'un côté ni de l'autre. Il ne faut ni faire barrage au Rassemblement national, ni donner de l'eau au moulin à la gauche du Front populaire. Et puis, il y a une voix ou des voix qu'on entend plus localement, qui disent « Nous, Paris, c'est bien gentil, mais ils nous ont mis dans ce trou de, dans ce cul-de-sac, si vous me permettez l'expression. » Et donc, on décidera nous-mêmes, au cas par cas. Et alors, vous pouvez avoir des accords qui pourraient être passés ici ou là, en fonction évidemment du contexte local et des forces en présence au deuxième tour. Donc, c'est loin d'être uniforme.
On peut citer la voix d'Édouard Philippe, patron d'Horizon, évidemment membre de la majorité présidentielle, qui lui dit espérer qu'un espace central, donc incluant une partie de la gauche et de la droite, s'impose comme une alternative à ce qu'il dénonce comme la tenaille, finalement c'est un mot juste pour la Macronie, la tenaille entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire.
Oui, c'est ça. Alors bon, il faudrait pour le coup qu'il y ait un sursaut, si vous voulez. Bon, il y a cet inconnu de la participation. Il semblerait que de plus en plus de Français se mobilisent pour aller voter. À qui ça va profiter? C'est la grande question. Mais généralement, si vous voulez, cette participation élevée ne fait qu'épouser ce qu'on a vécu peu avant. Et là, on a quand même le test et la photographie des élections européennes qui ont montré des rapports de force quand même très importants. Et très en faveur du Rassemblement national. C'est vrai que Édouard Philippe, lui, Il joue gros dans cette histoire parce qu'il est potentiellement candidat à la présidentielle de 2017 et il a intérêt à avoir le maximum de députés Horizon, puisque c'est son parti, à l'Assemblée nationale d'ici à 3 ans, qui occupent le terrain, qui font sa campagne, qui relaient sa parole. Et c'est vrai que pour lui, le choix de Agnès Pannier-Runacher, par exemple, de dire il faut voter au deuxième tour pour le candidat de la gauche, c'est pas un choix qu'il partage évidemment. Quoi.
Les interrogations de la Macronie concernant déjà évidemment l'entre-deux-tours de ces législatives, ce sera évidemment à retrouver dans le Figaro ce jeudi et sur votre site internet. Merci Yves Tréhard.
Merci Romain.
Et direction à présent Amsterdam. Amsterdam qui fait le plein, particulièrement avec l'arrivée de l'été. En moyenne, chaque année, ce sont plus de 20 millions de personnes qui se rendent dans cette ville des Pays-Bas, qui pour beaucoup rime avec la fête ou avec la drogue. Mais face au danger de plus en plus démontré du surtourisme, eh bien la mairie d'Amsterdam a pris plusieurs mesures, comme l'interdiction, par exemple, de fumer du cannabis dans la rue, l'augmentation de la taxe de séjour, ou encore, beaucoup plus radicale, l'interdiction de construire de nouveaux hôtels. À Amsterdam, cette dernière disposition est perçue comme un véritable danger par les professionnels du tourisme. C'est un reportage de Julien Chavanne.
Yep, it's the only public transport station built on the bottom of the sea.
Bienvenue à bord du Ship Dock, une péniche d'une dizaine de mètres. C'est parti pour une heure de balade sur les canaux bondés d'Amsterdam. Guido est notre capitaine et c'est peu dire qu'il voit d'un mauvais œil les tentatives de la mairie pour réguler le tourisme.
Vous ne pourrez pas empêcher les gens de venir ici, c'est impossible. On a essayé avec l'Angleterre et ça a été contre-productif. On a eu encore plus de monde d'Angleterre en leur disant de ne pas venir.
Alors il n'y a pas de solution ?
Pas besoin. Je vis ici depuis 60 ans. J'ai 60 ans. Et ça a toujours été comme ça. À mes yeux, Madame Halsma, notre mère, est une idiote. Et la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'elle parte.
Guido navigue pour Bulldog, à l'origine un coffee shop fondé il y a une quarantaine d'années et qui au fil du temps est devenu un poids lourd du tourisme à Amsterdam. Bar, hôtel, briquet souvenir, tout pour faire la fête, justement ce que la mairie ne veut plus voir.
Je m'appelle Remco Groenhuizen, je suis le manager de l'hôtel Mövenpick à Amsterdam.
Costume cravate impeccable, Remco nous reçoit dans l'immense hall de son hôtel, l'un des plus grands de la ville. Devant un verre d'eau pétillante, il nous raconte pourquoi, selon lui, la mairie se trompe de cible.
55% des gens qui visitent Amsterdam le font dans la journée. Ils ne sont donc pas concernés par cette mesure. On a l'impression que les mesures qui sont prises pénalisent les touristes qui ne posent pas de problème dans la ville.
Pour Remco, la mairie mélangerait les bons touristes, plus âgés, au portefeuille bien fourni, avec les mauvais touristes, les jeunes venus uniquement pour faire la fête. Retour sur le pont du Ship Dock. Morgan et Alexandra, un couple d'Américains venus de Miami, profitent de la visite, canette de bière à la main.
C'est ma deuxième fois ici, la première pour elle. On voulait voir le centre-ville, profiter de la nourriture.
Et pour eux, pas besoin d'en faire plus pour réguler l'afflux de touristes. Ce n'est pas l'avis des 30 000 habitants d'Amsterdam qui ont voté pour plus de restrictions en avril dernier. Amsterdam, ville à la fois gâtée et maudite par la manne touristique, n'a pas encore trouvé la bonne formule.
Thank you very much. Now, in case you like those stories, you can contribute to our drinking problem by giving us some money for it. If you didn't like it, you don't have to do anything at all.
Voilà, reportage à Amsterdam, signé donc Julien Chavanne du service international de RFI. Il est 19h28 ici à Paris. Dans un peu plus d'une minute, bien, ce sera le débat du jour. On évoquera les personnes LGBTI+. Leurs droits sont-ils en recul alors que c'est actuellement aux quatre coins du monde le mois des fiertés. Et puis j'en profite pour vous annoncer aussi le sujet du décryptage d'Anne Corpé qui sera à partir de 20h10 temps universel dans 40 minutes. Anne Corpé évoquera le Royaume-Uni, les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans pourraient subir une défaite cinglante à l'occasion des prochaines élections législatives qui auront lieu le 4 juillet prochain au Royaume-Uni. Les travaillistes sont annoncés triomphants. Anne Corpé qui décryptera cette situation avec ses invités. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Améliorer la santé maternelle et infantile au Cameroun, reportage de Charlie Dupiot.
Vendredi.
Question de femmes, troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Session Lab.
Pour écrire de la bonne musique, il faut pas avoir l'âme d'un propriétaire.
Un podcast musical réalisé par RFI Labo avec Hortense Vol.
Du haut de ses 23 ans, il nous émeut par la justesse de ses mots entre rap et chanson. Augustin, de son nom de scène sans nom, est dans Session Lab.
Mais Augustin, il va se battre. Il va pas lâcher le steak ni le plat de pâte. C'est qu'il est plutôt chanceux depuis qu'il a mis sa vie en jeu.
Écoutez Session Lab avec Hortense Vol tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.